Bon après-midi à tous, à toutes, chacun, chacune. Il n'y en a pas d'autres, hein? On a tout nommé. J'ai vécu l'aventure hier de déposer un document à mon fils qui est aux États-Unis. Vous faites ça récemment? C'est une aventure, hein? Surtout si vous passez par Poste Canada, hein? Alors, je suis arrivé et on m'a dit, bon, il y a des formulaires. Bon, mais des formulaires, quoi. Il faut votre téléphone. Alors, je sors mon téléphone. Et là, il fallait passer ça sur je ne sais trop quoi. Et là, il apparaissait quelque chose sur le téléphone. J'étais aussi familier avec cela qu'avec la doctrine de la Trinité. Vous savez, il y a un mystère là-dedans. Mais le petit garçon était gentil. Le jeune homme était très gentil. Il m'a beaucoup aidé. Et ça a dû prendre 15-20 minutes. J'étais complètement épuisé après coup. Et je lui dis, je suis d'une autre génération. Vous qui êtes jeunes, est-ce que vous trouvez qu'on vit dans un monde compliqué? Il n'a pas hésité une seconde, il m'a dit oui. Ça m'a grandement consolé. La beauté de la chose, c'est que la parole du Seigneur n'est pas compliquée. C'est l'être humain qui la complique, voyez-vous? Parce que nous avons cette fâcheuse tendance à compliquer ce qui est simple et à vouloir simplifier ce qui est compliqué. Mais la parole de Dieu, elle est simple. On la complique parfois. On apprécie tout ce qui se fait, toutes les prédications qui se font. On apprécie le ministère des podcasts. Mais il y en a qui nous instruisent et il y en a qui apportent davantage de mélange qu'autre chose. La parole de Dieu, c'est une parole simple. Nous entamons aujourd'hui le dernier chapitre de l'Apocalypse. Je n'ai pas encore pris de résolution, je n'ai pas encore pris de décision à savoir si j'allais prêcher un dernier message, parce que je vais pouvoir venir le 23 août prochain, on se voit une fois le mois maintenant, pour citer Mahomet qui disait à son fils, « Viens me voir moins souvent et quand tu viendras, je serai plus content de te voir. J'espère que vous êtes content de me voir. » Alors, je ne sais pas si je vais prêcher un dernier message lorsque je vais revenir le 23 août, parce qu'il y a encore beaucoup de matière. J'ai encore de la matière pour 3 messages, mais il est possible que je termine le mois prochain. Nous verrons temps et lieu. Pour l'instant, nous amorçons le chapitre 22. Le commentateur biblique, pas le vieux là du 17e siècle, mais le récent James Hamilton qui enseigne au Sutton Baptist Seminary, je pense que ça va me prendre mes lunettes aujourd'hui, je vais dû vieillir depuis un mois, la dernière fois ça allait bien. Voilà. Le commentateur James Hamilton donc trace le triste parcours de l'humanité à travers les âges. Tentez d'imaginer, et je le paraphrase un peu ici, là. Tentez d'imaginer ce que serait votre angoisse si le scénario suivant décrivait votre existence, votre histoire. Vous érigez une belle maison pour vos enfants et vous ne ménagez rien. Vous leur faites vraiment un beau lieu pour habiter. Et tout autour, dans les champs, vous plantez un très beau jardin, vous plantez un vignoble. Et vous ne ménagez strictement rien pour combler tous leurs besoins et pour les rendre aussi heureux que faire se peut pour que leur bonheur soit complet et total. Cependant, en dépit de tout cela, voilà qu'un de vos enfants tue son frère. Un autre de vos enfants prend le raisin de la vigne, en fait un très grand cru, un vin très costaud, très fort, et s'enivre jusqu'à perdre conscience. À votre grand étonnement, les chambres de cette maison, chambres bien sûr, que vous aviez bien pris soin d'établir pour la sécurité et pour la protection de leurs enfants, ben, sont devenus des repères d'adultère, sont devenus des repères d'obscénité. Et les enfants continuent à s'entretuer, à se voler, à se mentir les uns aux autres. Et alors que tout va s'empirant, voilà qu'ils commencent même à proclamer qu'ils n'ont pas de père. Il n'y a pas de père. Ils ont le culot d'affirmer que vous, le bâtisseur de cette maison dans laquelle ils habitent, n'est-ce pas, dans laquelle ils vivent, vous qui les avez enfantés, vous qui leur avez donné la vie, ben, en bout de ligne, vous n'existez pas. Imaginez le chagrin d'avoir vos enfants défiler dans votre demeure, se déclarant sans père, ou même en train de crier qu'ils vous haïssent. Dieu a créé le monde dans lequel nous vivons. Il a créé le monde dans lequel nous vivons comme un temple cosmique. Un temple, c'est un sanctuaire, c'est un lieu où Dieu voulait habiter avec son peuple. Et on a besoin de comparer la sainteté et la pureté exigée des prêtres qui entrent dans le temple avec la souillure abominable que les humains ont répandu sur toute cette planète que Dieu a faite pour manifester sa gloire. Même ceux d'entre nous qui font confiance à Jésus, qui essaient de vivre selon la Bible, hein, on est très loin d'atteindre la gloire de la sainteté de Dieu. Que ferions-nous si nous étions Dieu? Comment est-ce qu'on réagirait à la ruine de cette maison que nous avons construite, au mauvais usage des dons que nous en avons faits et à la profanation de son chef-d'œuvre, le sommet de toute la création, le corps et la personne humaine? Vous savez ce qu'il a fait à notre Dieu? On le sait ce qu'il a fait. Il a initié une opération de sauvetage cosmique, une opération de rédemption cosmique. Dieu a créé et dans son œuvre rédemptrice, il recrée. Son plan, c'est de sauver à travers le jugement, de manifester justice et miséricorde. On sait ce qu'est la miséricorde, misericardia, un cœur pour la misère. Puis d'introduire ceux qu'il sauve dans un nouveau ciel et dans une nouvelle terre. Ouvrons la parole de Dieu au chapitre 22, les versets 1 à 5 de l'Apocalypse. Parole de notre Dieu. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Vous allez reconnaître un peu la lecture biblique de ce matin dans Ézéchiel. On est un peu égaré lorsqu'on prend ça hors de son contexte, hein? Mais vraiment, ça ne nous parle pas de la reconstruction d'un temple physique. Mais ces chapitres-là d'Ézéchiel concernant le temple nous parlent de la nouvelle Jérusalem, nous parlent de l'Église dans sa gloire. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin, ou ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Parole à laquelle on ajoute, bien sûr, un amen enthousiaste, n'est-ce pas? Ce qui fait que je viens de perdre la page. Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui considérer trois éléments de cette péricope-là. Premièrement, la source de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu a toujours été et sera toujours la source de la vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein? Il en sera de même, mais avec une spécificité particulière lorsque nous serons là-haut. En sa présence. Deuxièmement, nous verrons la nature de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. On ne parle pas ici d'un quotidien banal, d'un quotidien ennuyeux, mais d'une démonstration de félicité absolument unique. Et nous terminerons avec l'assurance de notre éternité de béatitude inhérente à notre statut de sauvé. Ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent, béatitude, hein, dans notre vocabulaire. Quelqu'un qui est béat, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez, notre état de béatitude lorsque nous serons là-haut. Donc, la source de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. L'histoire de l'humanité qui s'est mise en branle, on le sait, en Genèse chapitre 1, hein, c'est notre côté présuppositionnaliste. Hein. La Bible ne commence pas avec un prolégomène pour nous prouver que Dieu existe et qu'il a écrit la Bible. Non, la Bible commence tout droit au but. Au commencement, Dieu. Et voilà. Au commencement, Dieu a donc créé le temps et il a créé l'espace et tout ce qu'il a su mettre dedans. Donc, l'histoire de l'humanité, excusez-moi, je viens de vider ça sur le tapis. Ça va aller, Christian? Oui, j'ai vidé un peu d'eau sur le tapis, ça va être bien, ça va pousser. C'est mis en branle au chapitre 1 et atteint son apogée donc au chapitre 22 de l'Apocalypse où nous sommes présentement. Ici, on voit l'histoire boucler la boucle dans le triomphe et dans la gloire. Et tout ce qu'on sait est dû, attribuable à l'œuvre salvatrice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, pour citer Genèse 1,31 et pour l'actualiser un peu, Dieu voit tout ce qu'il a fait et cela est très bon. On irait même jusqu'à dire excellemment bon, n'est-ce pas? Genèse 22 se veut donc la continuation de la péricope qu'on a vue le mois passé, de la vision précédente quant à la Nouvelle Jérusalem. Cependant, il y a dans cette section un point de vue nouveau et un point de vue supplémentaire. Dans la partie précédente, tout était présenté sous l'aspect d'une ville, hein, de la Nouvelle Jérusalem comme l'antitype et comme l'accomplissement de l'ancienne ville de Jérusalem, l'ancienne Jérusalem terrestre. Ici, il y a quelque chose qui s'ajoute, parce que dans cette section, la vie et la félicité de l'Église glorifiée sont décrites sous l'image d'un jardin. Sont décrites sous l'image du jardin originel d'Éden, le premier paradis, mais ici dans un jardin, dans un paradis rendu à terme, qui a atteint son but. Et Jean vient donc conclure cette section avec les sources de la vie, la bénédiction de la Nouvelle Jérusalem, le jardin cité. Au verset 1, donc, il dit, « Il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » On sait qu'il y a plusieurs antécédents bibliques à cette vision-là. On sait tous que l'Apocalypse s'interprète à partir de la parole de Dieu, non pas l'image du journal d'aujourd'hui ou l'image de je ne sais pas trop qui. Toute l'interprétation de l'Apocalypse se retrouve dans l'Ancien Testament, pour la plupart, chez les prophètes, on retrouve la même terminologie, c'est la même révélation de Dieu cohérente. Alors, il y a plusieurs précédents bibliques à cette vision, entre autres, Genèse chapitre 2, verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Hein? » Mais, on ne peut pas manquer non plus le discours que notre frère Fadi nous a lu tout à l'heure, en Ézéchiel 47, verset 1, « Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, et on pourrait traduire facilement sous le seuil du temple, comme plusieurs versions anglaises le font pour le mot « bayit » en hébreu, qui peut être traduit par « temple » également. Alors, de l'eau sortait sous le seuil du temple, et ici, en Apocalypse 22, l'eau sort du trône de Dieu et de l'agneau. Non seulement est-ce le trône de Dieu, mais c'est aussi le trône de l'agneau, qui nous fait voir que la grâce, et c'était bien exprimé dans la prière de mon frère, de nos frères tout à l'heure, la grâce jaillit de la volonté souveraine de Dieu par le moyen de la mort vicariale en Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre médiation. On pourrait certainement citer plusieurs autres occurrences, et même dans le Nouveau Testament, à cet effet-là, entre autres Jean, chapitre 4, verset 10 et verset 14. Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, on est encore dans l'eau, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On est dans la même mouvance, hein? Et le glorieux discours de Jean 7, versets 37 à 39, qui va comme suit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Non pas que l'Esprit n'était pas dans l'Ancien Testament, mais il y a une donation nouvelle, il y a une habitation nouvelle de l'Esprit pour ceux qui sont dans le Nouveau Testament. Le Seigneur enseigne donc ici qu'il s'agit de l'Esprit qu'il allait envoyer après sa glorification. La vie de l'Esprit, ce n'est pas une nouvelle rhétorique. La vie de l'Esprit, ce n'est pas un traité de dogmatique non plus. Ce n'est pas un beau discours avec lequel on se gargarise pour avoir l'air spirituel. La vie de l'Esprit, c'est un modus vivendi, c'est un mode de vie, une manière de faire et de dire. C'est s'abreuver de l'eau limpide du Saint-Esprit et c'est marcher dans les voies de notre Dieu. On est rapide pour dire Amen. Nos actions ont de la difficulté à suivre, n'est-ce pas? On a l'amène plus rapide que le pont. C'est un peu normal parce que nous sommes encore en devenir. Nous sommes en progression dans notre sanctification. Et tout cela va se concrétiser là-haut, mais ça commence ici-bas. Rappelons-nous cela. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes déjà partie prenante de la vie de l'Esprit et ça va en croissant. Nous avons reçu une nouvelle volonté. Nous avons reçu effectivement l'Esprit qui nous habite, qui dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous avons reçu la révélation de Dieu. Nous avons reçu la puissance de celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Comment quelqu'un qui vit dans l'esprit du monde sans amour pour Dieu et pour les frères pourrait-il avoir envie d'aller au ciel où tout cela va se réaliser en plénitude? On est toujours étonné quand on parle aux inconvertis de voir soit leur indifférence ou leur rébellion carrément ouverte. Quand tu n'as pas d'amour pour Dieu, tu ne veux pas voir ça se réaliser. Ce n'est pas ce que tu veux vivre. Tu veux vivre ton petit royaume du monde. Et ça nous dit quelque chose d'important. Ce que nous faisons, est-ce que nous sommes ici-bas? Notre vie, notre service pour le royaume n'est pas sans valeur. Ce n'est que le début de notre éternité. On est déjà dedans, qui va croissant. Nelson Mandela, c'est peut-être pas un grand écrivain biblique, mais il a dit quand même quelque chose d'intéressant, on le disait chrétien. Il disait que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, hein? Alors, lorsque nous sommes animés par cette espérance que la Bible nous apporte, on fait les bons choix. Et ça m'amène à mon deuxième point, la nature de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. En Éden, donc, le fruit de l'arbre de vie dont se nourrissaient Adam et Ève avait sans doute la vertu de les préserver du vieillissement. Comme vous voyez, j'y ai pas eu accès. Ça les préservait du vieillissement, conséquence de l'entropie qui affecte le genre humain depuis la chute. Aussi longtemps qu'Adam et Ève ont vécu dans la dépendance de Dieu, ils n'ont pas vieilli. Ils n'ont pas non plus été sujets à la maladie ou à l'affaiblissement de leurs facultés. Grâce aux fruits de l'arbre de la vie, leur existence pouvait se prolonger indéfiniment. Hein? Cependant, lorsqu'ils tombèrent dans le péché, ils devinrent vulnérables à la maladie. Et là, ils sont devenus effectivement sujets à toutes sortes de souffrances. De plus, ils étaient désormais condamnés à la mort, aussi bien spirituelle que physique. Le Seigneur leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'a pas dit, le jour où vous en mangerez, dans 1000 ans, vous allez mourir. Ils sont morts le jour même, une mort spirituelle. Parce que la mort, c'est la communion avec Dieu. Et la mort physique n'est que la conséquence de la mort spirituelle. C'est en lui que nous avons vie, mouvement et être. Dès qu'on devient déconnecté de Dieu, c'est la mort physique qui tôt ou tard, va se pointer. Alors le jour où ils en ont mangé, mort spirituellement, et la mort physique ne faisait que venir le confirmer. Et c'est alors que Dieu leur interdit l'accès à l'arbre de vie. Faut bien le dire, c'était un acte de grâce que Dieu leur a fait, de les empêcher de venir vivre éternellement, n'est-ce pas, dans la souffrance, dans la douleur, dans les tourments et dans le péché, alors qu'ils étaient maintenant coupés de lui. Dans le paradis de Dieu, et si nous sommes croyants, ben écoutez, c'est notre paradis à nous, hein? Ce paradis qui est décrit en Apocalypse 22, il n'y aura pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, lui, brillera par sa présence et donnera la guérison définitive, hein, Jéhovah, Shama, et donnera la guérison définitive des effets du péché. De plus, l'homme aura changé de statut. Il sera passé de l'état d'innocence à l'état de sainteté, et Dieu sera tout et en tous. On a l'état d'innocence, on a l'état de chuter, de dépraver, et on a l'état de sauver et l'état éternel. James Hamilton, là on parle du théologien du 19e siècle ici, voit une analogie entre l'arbre de vie et l'incarnation de Jésus-Christ qui nous amène en présence de Dieu, et ça mérite considération. Il vaut la peine de noter que les apôtres ont utilisé le mot « arbre » dans la prédication de la croix. En Actes chapitre 5, verset 30, par exemple, nous lisons « Le Dieu de nos pères a ressuscité, c'est Pierre qui parle, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois, en le pendant au xoulon, dans le grec, littéralement en le pendant à l'arbre. » Oui. Acte 10, 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au xoulon, en le pendant à l'arbre, traduit par en le pendant au bois. Acte 13, 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du xoulon et le déposèrent dans un sépulcre. L'apôtre Pierre n'est pas en reste, vous savez. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le xoulon, sur l'arbre, sur le bois, afin que morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. » Et dans le récit d'Ézéchiel concernant le temple dont on a parlé tout à l'heure, hein, « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se fleurira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Alors, on parle ici d'un remède pour toute douleur. Une panacée, dirait-on aujourd'hui. Un remède pour toute douleur subie en régime d'incarnation. Un remède contre toute frustration, contre toute déception. Un remède contre toute écœurantite, comme on dit souvent chez nous. Un remède contre nos attentes déçues, un remède contre nos poupées brisées. Et c'est l'affirmation du verset 2. « Ici, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, un xoulon, un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Il nous a donc parlé de la provision d'une abondance de vie spirituelle et de grâce pour combler chaque besoin. Bien-aimé, c'est pas compliqué, hein? Nous sommes chemin faisant. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. La vie, je vous apprendrai rien, c'est un parcours tumultueux. Quelqu'un va éviter de dire amen à ça, ou on est tous d'accord. C'est un parcours très tumultueux. Dans une de nos rencontres de prière il y a quelques années, quelqu'un avait commandé en lisant le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » et il avait ajouté « Je ne manquerai pas d'épreuves non plus ». Bon, c'est pas ce que le texte nous dit, mais on comprend qu'effectivement, même les épreuves font partie de la bénédiction de Dieu parce que c'est par là qu'il nous transforme. Une épreuve, par définition, qu'est-ce que ça fait une épreuve? Ça éprouve. Une épreuve, par définition, ça prouve. Ça prouve quelque chose. Personne ne va en disconvenir. On sait qu'on ne sera pas sauvé par les œuvres. Mais le mot « œuvre » est un générique très inclusif. Ça inclut les bonnes œuvres qui ne sont pas une condition nécessaire au salut chrétien, mais qui se veulent nécessaires en termes de conséquences au salut. On n'a qu'à penser au discours de Jacques, chapitre 2, versets 20 et 26. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire « On est sauvé par la foi » et non par les œuvres, mais nous sauver par la foi qui manifeste, ça va de soi, des œuvres. On a besoin de s'accrocher à ces belles réalités-là. Vous savez, la vie chrétienne, c'est donnée à des humanoïdes d'Australopithecus que nous sommes, passez-moi les expressions un peu pompeuses, c'est donné à des humains comme nous. Et vous savez comment on est comme être humain? Quand c'est nouveau, tout est beau, c'est merveilleux, on se lance partout, on est tout énervé, très enthousiaste. Ce n'est pas un bon départ qui sauve, c'est la persévérance qui sauve. On peut tous avoir un bon départ. N'en avons-nous pas vu des bons départs à l'armée, à la tonne même, et de gens qui ont reculé? Ce ne sont pas les bons départs. On n'a qu'à regarder, par exemple, la parabole des quatre sortes de terre. Ce n'est pas le plus enthousiaste. Le plus excité au début qui courait partout pour avoir de l'enseignement. Non, il n'y avait pas de racines. Il fallait qu'il aille chercher de l'eau où il en trouvait. Et il a flétri. Voyez. C'est la persévérance. On a vraiment besoin de nous accrocher. Nous avons besoin de voir qu'en chaque circonstance, nous sommes en préparation de ce qui nous attend déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'éternité future. Ça nous attend déjà. On a déjà commencé cette vie de l'éternité future. Nous sommes en formation. C'est un beau mot, ça. Que fait quelqu'un en formation? Il se forme, amen. Il est en train de prendre la forme. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes en train de nous réformer. Notre Église n'a pas seulement le nom, on espère aussi que c'est ce qui se passe dedans, qu'on est en train de se réformer. Et ça vaut très certainement pour nos relations. Et ça vaut plus particulièrement pour nos relations fraternelles. Notre vie d'Église, bien-aimée. Nous allons passer l'éternité ensemble. Vous avez déjà entendu dire à quelqu'un où il y avait un rassemblement de chrétiens, puis moi je ne vais pas parce qu'un tel est là. On va passer l'éternité ensemble. Bien sûr que nous sommes glorifiés, mais ça commence maintenant. Nous avons déjà les prémices de l'Esprit. Nous avons déjà la vie de l'Esprit. Et nous sommes appelés à manifester dès ici-bas ce que va être l'éternité future, nous sommes en formation. Et c'est ici que ça commence. Puisse l'Église réformée baptiste de la Trinité refléter cette réalité-là. Ça veut dire, bien-aimés, que nous sommes tous des êtres humains finis, Être fini, ce n'est pas un péché. Mais en plus d'être fini, nous sommes pécheurs. Nous sommes régénérés, mais encore en train d'être délivrés du péché. Ça veut dire que dans nos relations, il risque fort d'avoir des heurts à l'occasion. Il risque fort d'avoir des égratignures, des moments abrasifs, comme on dit souvent, dans nos relations. À quel point on a besoin, dans bien des circonstances, de passer par-dessus bien des choses. Ça veut pas dire qu'on passe par-dessus tout. Il y a des événements vraiment qui doivent être, pas seulement l'expression anglaise, adressés, où il faut en parler. Mais on ne s'arrête pas toujours à chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose. On passe par-dessus. Vous savez, j'ai lu un verset qui m'a frappé comme une baffe, une mornif, une gifle, appelez ça comme vous voulez. Et c'est dans Colossiens 3.13 qui nous dit « Supportez-vous ». Je vais regarder le verbe en grec « annexo ». Vous savez dire « annexo » Ça veut dire « endurez-vous ». C'est le Seigneur qui dit ça à l'Église. « Endurez-vous ». Est-ce que vos parents vous ont déjà dit ça? « Endurez-vous donc ». Vous avez déjà entendu l'expression. « Endurez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi réciproquement. » Nous sommes en train de nous réformer. Lorsqu'historiquement la grande question s'est posée sur le problème du mal, on a sorti plusieurs théories. Saint Augustin disait, le mal c'est l'absence de bien. Et, prenez en comparaison, le froid n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de lumière. Ainsi, le mal n'existe pas, c'est l'absence de bien. Mais on sait trop bien que le mal est beaucoup trop présent pour le voir comme une absence. On aime beaucoup les propos de Herman Bovink et autres qui disent que le mal, non, a une existence, c'est la déformation du bien. Oui. Et c'est ce que l'ennemi est toujours en train de travailler pour nous faire dévier, pour nous faire chuter, pour nous distraire de ce qui est notre rôle. Le mal est la déformation du bien, de sorte qu'être régénéré, c'est reprendre cette forme. On a été déformé et on reprend la forme. Je suis perdu dans mes notes. Ce que nous faisons ici-bas a un impact sur ce que nous serons dans l'éternité. Toutes sortes de choses. La vieille dame que j'aide à traverser la rue, le frère ou la sœur que je soutiens dans une épreuve, mes réactions devant la panoplie de mes déconvenus, nous sommes en formation. Il y a une expression qui est devenue très populaire quand j'étais petit, mon papa nous la citait très souvent. On a toujours eu des chiens chez nous. On a toujours eu des chats chez nous. Et on avait des chiens. Et mon papa nous disait toujours, parce qu'on chicanait, on était quatre gars, chez moi le plus jeune, et il nous disait toujours, parce que, c'est lui, c'est Maurice, c'est Roger, c'est Gilles, c'est toujours la faute des autres. Hein? On n'a pas perdu ça, d'ailleurs, non plus aujourd'hui. Mon papa disait toujours, arrêtez de citer les circonstances. Et il prenait toujours le chien en comparaison. Est-ce que c'est la queue qui ferait branler le chien, ou le chien qui se branle la queue? On a une affirmation, on a une décision, on a une autorité, on a des initiatives à prendre. Et c'est une adresse pour l'Église d'aujourd'hui. Particulièrement en Amérique du Nord, où on est devenu tellement gâté, on est devenu tellement fragile, tellement frêle, on se fait craquer la croûte assez facilement. On a besoin de retrouver cette vitalité biblique de l'Esprit de Dieu. Et ça m'amène à mon troisième point. Il y en a juste trois, ça peut vous consoler. L'éternité de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, donc versets 6 et 8, nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. » Les trois derniers versets de la péricope d'aujourd'hui synthétise en quelque sorte la félicité dans ces grandes paroles. Le verset 3 nous dit en effet, « Il n'y aura plus d'anathème. » Il n'y aura plus de rupture d'avec la présence de Dieu, comme ce fut le cas à la chute. Et en regardant le monde, en sondant nos vies, en lisant l'Écriture sainte, on ne peut manquer de voir ici-bas l'omniprésence du péché. Et comme j'ai déjà mentionné dans une prédication précédente, à l'exception de 4 chapitres dans la Bible, les 1185 autres chapitres de la Bible nous placent dans la malédiction du péché. Quant aux 4 chapitres qui y échappent, il s'agit des 2 premiers qui traitent de la vie avant la chute et des 2 derniers qui décrivent la vie après la conquête ultime, bien sûr, du Seigneur Jésus. Alors, quant aux 1185 autres chapitres, il nous rapporte l'histoire de la rédemption divine par le ministère du Christ Jésus. Ce que j'ai trouvé intéressant particulièrement, c'est dans le texte original que nous avons devant nous, le mot traduit par anathème est un mot plus fort que anathéma. Bien sûr, anathéma veut dire anathème, qui apparaît dans 3 passages du Nouveau Testament. Le mot anathéma veut dire maudit. Hein? Alors que le mot que nous avons ici, c'est katanathema, qui veut dire littéralement imprécation dans les évangiles, ou les haines d'ici-bas. C'est nous dire que il implique. C'est dire que dans l'éternité, il n'y aura plus rien pour rappeler les malédictions, plus rien pour rappeler les haines d'ici-bas. Et la réalité est très simple, c'est qu'il n'y aura plus de serpents dans le paradis perdu, mais retrouvés et arrivés à terme. Dans le monde présent, et ça depuis la chute, on tente toujours de se rebâtir un petit paradis terrestre. On ne peut pas se tromper, dans chacun d'eux, il y aura toujours un serpent. Il y aura toujours un serpent qui vient faire échouer l'entreprise, de sorte que la marchandise n'est jamais livrée. Dans le cas d'Adam et Ève, c'était « Dieu a-t-il réellement dit? » Ça peut être autre chose aussi, ça peut... Voyez pas ce que vous manquez, vous autres, à titre de religieux? Êtes-vous obligés d'être aussi consacrés? Faites-vous donc un peu plaisir. On n'a qu'une vie à vivre. Hein? On a toutes sortes de petits serpents qui se faufilent et qui viennent faire obstacle à ce qu'on cherche. La pression des pères, la pression des enfants. Pression des enfants, ça a l'air de rien, mais ça en est toute une, vous savez. Ils vont à l'école, ils reviennent, et là, ils vous disent, « Il y a juste vous autres, comme parents, qui pensez comme ça. Il y a juste vous autres qui exigez ça. » Tous les autres enfants peuvent aller là, moi je peux pas y aller. Ça met une pression. Vous êtes sur le comité de parents, j'ai passé ma vie là-dessus. On se fait regarder, hein? On est toujours en porte-à-faux. On a toujours un discours différent. C'est ça être chrétien. Il n'y aura plus la pression de notre fragilité là-haut. Alléluia, et il n'y aura plus de serpent dans le jardin céleste. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, nous dit le texte, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. L'accomplissement final du but de Dieu, vivre parmi son peuple. C'est la fin de l'aliénation, c'est le retour de la présence bénie de notre Dieu. Et la contemplation de la face du roi, à l'époque du roi Salomon, suffisait à rendre heureux tous les gens autour de lui. Imaginez maintenant lorsque nous serons en présence du roi des rois, en présence du Christ lui-même. Le service des fidèles auprès de l'agneau sera loin d'être de l'esclavagisme, sera très loin d'être une tâche abaissante. Ce sera un service sacerdotal. On a le mot « service » dans le texte. C'est intéressant parce que ce n'est pas le mot « diaconia » qu'on retrouve. Le mot « diaconia » a donné le mot « diakonos » qui a donné en français le mot « diacre ». Et le mot « diaconia », c'est le service que font les diacres. Non, le mot que nous avons ici, c'est le mot « latreia », qui est un mot utilisé pour le temple, un mot sacré, utilisé pour, dans le texte biblique en lien avec le tabernacle. Et le terme signifie littéralement « rendre hommage et adorer ». Nul ne pourra interrompre ou troubler ce service-là. Il sera l'expression de notre sentiment d'amour pour l'agneau. Il sera parfait et sans faille, comme une offrande présentée au Dieu parfait par des serviteurs rendus parfaits en vertu de l'œuvre parfaite du Christ Jésus. C'est en quelque sorte le mandat que l'homme avait reçu lorsqu'il était créé dans le jardin d'Éden. Genèse 3,15, « L'Éternel, Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ce sont deux termes sacerdotaux, parce que le paradis terrestre, c'était un sanctuaire. C'était un sanctuaire où la tâche d'Adam, à titre de prêtre, à titre de co-régent de Dieu, était d'empêcher le mal d'y entrer. D'où l'échec et la conséquence qui en a suivi. Adam, Dieu ne dit pas à Adam, je t'ai placé dans le jardin avant que tu fasses du jardinage. Non, tu vas en prendre soin, tu vas officier, tu vas opérer ton rôle sacerdotal à l'intérieur de ce jardin-là. Donc, dans cette nouvelle Jérusalem, ce jardin parfait, notre privilège de répandre la gloire dans tout l'univers et pour l'éternité. Nous sommes comme les prêtres d'Israël qui s'émerveillaient de pouvoir entrer dans le temple et servir au sein de tout ce qu'il y avait de précieux. Et en raison de notre union avec le Christ, dans la foi, nous sommes destinés. Vous savez c'est quoi, être destiné? C'est avoir un destin. Amen. Notre destin. Nous sommes destinés à régner avec lui dans le royaume de gloire, à celui qui vaincra, Apocalypse 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est arrêté, c'est définitif, c'est final. Rappelons-nous dans quel contexte l'apôtre Jean a rédigé l'Apocalypse. C'était une époque où l'Église faisait face à une persécution quasi indescriptible pour le témoignage de l'Évangile, pour la proclamation de la vérité. Et ce n'est pas une époque révolue, vous savez. Nous, on est encore gradure ici, malgré qu'on perd notre liberté progressivement et qu'on voit beaucoup d'injustices, mais il y a beaucoup de régions sur la planète qui n'ont pas les privilèges que nous avons ici encore. Alors, ce n'est pas une époque révolue. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à faire de grands renoncements pour la cause du royaume, ce qui ne veut aucunement dire que ça n'arrivera pas. Il ne faut pas prendre ça aisé, si vous me passez l'expression classique. Rappelons-nous toutes ces vérités importantes que nous avons survolées tout au long de notre parcours de l'Apocalypse. Gardons un esprit lorsque l'anxiété nous fait de l'œil, lorsqu'au détriment de la vérité, la facilité nous tend la main. Rappelons-nous que notre victoire en Christ Jésus est au rendez-vous. Amen. Dieu très saint, Père éternel, donne-nous, dans une mesure beaucoup plus grande, d'apprécier le privilège qui est le nôtre de pouvoir venir en ta présence. La seule raison, notre Dieu, qu'on puisse entrer dans ton temple, qu'on puisse t'appeler notre Père, qu'on puisse laisser monter vers toi nos prières, C'est parce que nous sommes cachés en Christ Jésus. C'est lui qui vient filtrer tout ce que nous sommes. C'est lui qui a tout accompli, qui a tout fait. Donne-nous un amour beaucoup plus grand en retour au Dieu Saint. Donne-nous une marche beaucoup plus harmonieuse avec ta sainte parole, avec ta révélation. Donne-nous aussi, à titre d'Église, Seigneur, de continuer à prêcher ta parole, non seulement dans nos rassemblements dominicaux ou du mercredi, mais dans les occasions du quotidien, à partager ce que nous croyons. Et nous le croyons parce que ta parole le dit, et ta parole est la vérité. Sois béni et remercié pour tes grâces, pour tes bontés, et pour, comme on l'a vu dans le texte de ce matin, cette assurance qui est la nôtre, que nous sommes attendus là-haut, avec cette félicité promise, et que nous attendons au Seigneur avec grande hâte en Jésus-Christ. Amen.